Bonjour et bienvenue sur Autre Radio, Autre Culture, Audio People. Nous étions partenaires des Rencontres de la Création Sonore 2011. Nous allons à présent vous diffuser la seconde partie de l'émission captée et diffusée en numérique, toujours avec Terry Nelson aux manettes.
Bienvenue pour cette deuxième partie de la captation et diffusion en numérique. Donc nous allons reprendre avec les microphones numériques avec Alain et nous avons la chance d'avoir M. Guillaume Herret avec nous de Sennheiser, qui va nous expliquer sur les micros numériques de Sennheiser et le philosophy.
Donc, bonjour, je travaille pour le groupe Sennheiser depuis quelques années maintenant. Le groupe Sennheiser, ça veut dire les marques Sennheiser et Neumann, et je m'occupe de pousser la technologie des micros numériques pour le groupe. Au départ, en Europe, beaucoup en France. Je dois dire que la France est vraiment... pionnière en la matière et en grande partie grâce à Espace Concept, UCAN Technology. Et maintenant, c'est en train de vraiment s'étendre avec de plus en plus de projets, non seulement en Europe, mais également en Amérique et en Asie. Je vous donnerai quelques exemples des projets en cours pour les 2-3 mois qui viennent. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail des micros numériques parce que je pense que ça a déjà été... fait, refait, ça suit le standard AES 42 que tout le monde connaît par cœur, bien sûr. De toute façon, il n'y a rien de plus simple.
Je ne pense pas que tout le monde le connaît par cœur. Je pense que quelques précisions seraient utiles.
Je voulais plus... Là, je me sers d'une présentation existante et qui n'était pas forcément faite pour les rencontres de la création sonore, mais qui montre un certain nombre d'exemples dans différents domaines, des réalisations en cours, non seulement avec des micros numériques, mais sur le principe de système tout numérique. Ça, je pense que c'est très important. C'est quelque chose dont je m'occupe, évidemment, à l'extérieur du groupe Sennheiser, mais également énormément de travail de communication et de découverte à l'intérieur des différentes structures du groupe Sennheiser et des différentes filiales. Parce qu'à partir d'une technologie développée par des ingénieurs maison, des micros numériques qui, comme le disait Alain, bien souvent ont été pensés pour l'enregistrement, de bien faire comprendre qu'il y a certainement d'autres champs d'application pour ces micros, à condition de les associer à d'autres technologies, d'autres marques, d'autres fabricants, et en suivant des règles bien précises, on avait vraiment une opportunité de renouveler... non seulement le résultat audio, on est quand même tous là pour ça, mais aussi de faciliter les mises en œuvre et les méthodes de travail qui changent, mais dans le bon sens. Et je pense que c'est ce que Alain vous a décrit assez précisément, même si rapidement ce matin. C'est un gros boulot en interne de faire comprendre à un fabricant que ses produits sont très bien, mais que tout seul, ça suffit pas. Donc il faut les rendre compatibles, il faut communiquer. Des ingénieurs allemands, il faut leur ouvrir un petit peu l'esprit. Et puis trouver des partenaires, faciliter la communication. Et c'est par exemple un très bon exemple avec Innovasson. Le principe du fan a cela d'intéressant, que vraiment il apporte quelque chose, à mon avis, de nouveau pour l'audio, que ce soit en live ou toute autre application. Contrairement à l'idée qu'on pourrait s'en faire, c'est pour moi pas un concept fermé du tout. Ça suit des règles strictes. Et ça, je pense que... Bon, Alain est un extrémiste dans son genre, mais je pense qu'il a raison. Il faut partir de ça. Pour que vraiment ça apporte quelque chose, il faut imposer une sorte de normes, de règles à suivre. Sinon, tout l'intérêt se perd. Et dans ces cas-là, le but n'est pas d'être numérique pour être numérique, mais de vraiment faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'on passe à autre chose, dans le bon sens du terme. Et évidemment, qui dit règles dit de faire rentrer et d'imposer parfois à des fabricants, ou en tout cas de les pousser dans un certain sens, hein, ce qui n'est pas toujours simple, mais on finit par y arriver. Et là-dessus aussi, Emmanuel a mentionné un groupe de marques et de fabricants compatibles avec leur concept de fan. C'est pas une liste fermée, loin de là. C'est un début de liste. Innovasson est et Yamaha est également sur la liste. J'espère qu'on ira plus loin avec Yamaha très prochainement dans la la commande des micros directement sur les consoles. Voilà, si pour répondre à une question qui nous a souvent été posée, pourquoi Innovasson en priorité, c'est juste parce que Innovasson a manifesté depuis plusieurs années la volonté de vraiment s'impliquer et d'allouer des ressources au développement pour rendre compatible et rendre possible la commande des micros sur leur console. Alors ça ne s'est pas fait en un jour, ça ne s'est pas fait directement, ce n'est pas l'implémentation de la ES42 directement dans la console comme on aurait pu l'imaginer au début, mais on est arrivé à une solution qui, sans être un compromis, qui est une solution intermédiaire et qui présente énormément d'avantages à partir du moment où on raisonne différemment, puisque ça veut dire que les micros doivent être associés à leur boîtier d'interface. Alors on va dire que ça rajoute des boîtes, mais à partir du moment où ces boîtes ont une utilisation multiple et sont dès le départ utilisées comme des boîtiers de scène, finalement, des boîtiers, au moins un boîtier, il en faut bien un quelque part entre les micros et la console, ne serait-ce que pour réunir tous le câblage et ne pas faire partir 64 micros directement à la console. Voilà, donc c'est un club, on va appeler ça un club, ouvert. C'est également, ça se confirme dans les projets. Il y en a de plus en plus, en tout genre. Je vous donnerai quelques exemples en classique, pop, rock, installation, broadcast. Donc là aussi, de plus en plus de prestataires, de filiales ou distributeurs. Là, je reviens sur le groupe Sennheiser, s'implique là-dedans et démarre des projets. Là aussi, le but, c'est de communiquer énormément. Ça demande de remettre toutes les bases à zéro. Ça demande beaucoup de communication, d'apprentissage, de compréhension, parce que toutes les règles sont changées, y compris dans la captation microphonique. Même si les membranes sont les mêmes, le comportement des micros est différent, y compris d'un point de vue purement sonore. Je vais vous montrer quelques exemples. Je ne vais pas m'étendre sur le système de vidéosurveillance, parce qu'en termes de création sonore, on fait mieux. Je vous le mentionne, je reste sur cette slide. C'est quand même une preuve que cette technologie, vous voyez que c'est quand même un assemblage de produits de différentes provenances. Cette affaire concerne le casino de Monaco. Ce sont des gens qui sont assez exigeants. C'est un milieu très particulier que nous avons découvert à cette occasion. Ils sont très très insistants sur la sécurité, sur la redondance, sur le fait que la fiabilité du système. Et s'ils ont opté pour la solution audio telle que vous la voyez décrite ici, ça prouve bien que la technologie, elle est non seulement au point, mais elle est fiable. Bon, alors là, c'est dans le cadre d'une installation fixe, mais tout passe finalement par une fibre ou un câble réseau avec toute la commande à distance sur plusieurs centaines de mètres, ce qui est le cas des caméras également, hein, puisque ce système audio est destiné à être associé et synchronisé avec tout un réseau de caméras vidéo IP. Donc, bon, dans le monde de l'installation et des intégrateurs, ce sont des choses qui sont monnaie courante. Voilà, il est intéressant de montrer que cette technologie, adaptée à ce genre de projet, sait convaincre des gens très exigeants et qui mettent toutes les aspects de sécurité de leur côté. Juste un petit récapitulatif donc sur les micros, sur la ES42, là c'est l'offre telle qu'elle existe aujourd'hui dans la gamme Neumann, sous la dénomination solution D. Donc ça comporte deux micros large membrane, le D01, qui était le premier micro qui a maintenant 8 ans d'existence officielle, qui a été le premier micro suivant la norme ES42 et qui a un petit peu servi à montrer tout ce qu'on pouvait faire à partir de cette norme-là. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que ça comporte, la ES42 ? Ça veut dire que le micro, c'est directement donc de la donnée qui va sortir du micro, c'est de la ES42, qui va devoir être convertie. Donc le micro a besoin d'être associé à une interface, quelque part, qui va avoir quatre rôles. D'abord, fournir l'alimentation au micro. Ensuite, de convertir la ES42 en un autre format audio. Au départ, en ce qui concerne les interfaces Neumann, c'était de la ES-EBU. Mais on est aujourd'hui ouvert sur du réseau numérique, comme l'Ethersound, par exemple. L'AESEBU, lui, sort sous différentes... enfin, c'est l'AES3. Donc, ce qui était également très important dans le développement de ces micros numériques, c'était de ne pas avoir à tout changer en termes de connecteurs et de câblage. Les câbles micro utilisables avec ces microphones peuvent être des câbles tout à fait normaux avec des fiches XLR. Et évidemment, c'est une question de fréquence d'échantillonnage, mais la longueur du câble sur des fréquences de 48 kHz va pouvoir atteindre une centaine de mètres. Ensuite, si on veut passer à des longueurs supérieures, il va falloir passer sur du câble spécifique pour le numérique. L'interface va également gérer avec son micro toute la synchronisation. Alors là, on va rentrer dans la distinction de l'AES42 en mode 1 ou mode 2. Les micros du groupe Sennheiser, donc Neumann Sennheiser, fonctionnent en mode 2. Ça veut dire qu'ils se synchronisent entre eux. Et, ce qui est pour nous quelque chose de très important, donc aucunement besoin de passer par un convertisseur de fréquence d'échantillonnage qui, alors c'est un débat très actuel et sans fin. Alain dit de plus en plus que ce qui sera très important à l'avenir, c'est la qualité des convertisseurs de fréquence d'échantillonnage.
En fait, notre mot, c'est la qualité du préampli, mais quand on sera en tout numérique, ça sera la qualité du SRC. Donc le mot de demain, je pense que ça sera ça, parce qu'à un moment donné, il va falloir synchroniser tout, il y aura du SRC, et il faudra absolument qu'il soit de qualité. Des SRC, aujourd'hui, dans une chaîne, on ne les ressent pas, parce que de toute façon, un convertisseur analogique numérique fait que c'est le maillon le plus faible dans notre chaîne. Mais quand on enlève tout ça et qu'on se retrouve en tout numérique, la qualité de la chaîne remonte. Et en fait, le maillon qui était un maillon qui n'avait pas d'intérêt à la SRC, j'allais dire, où on n'entendait pas le son, du coup, maintenant, on l'entend. On l'entend et on va l'entendre bien. Quand on est en tout numérique, ben, on a remonté la qualité de la chaîne et le maillon le plus faible, ça va être celui-là.
Alors Neumann ne se posait pas la question dans ce sens-là. Il ne voulait pas entendre parler de convertisseurs de fréquence d'échantillonnage. Donc ça voulait dire que les micros devaient être synchronisables, ce qui est le cas. Le quatrième point, c'est la communication entre les micros et via l'interface et la gestion par un logiciel ou directement donc une console de mixage ou un enregistreur. L'échange de données et de commandes entre le micro et le maillon suivant. Donc le micro, et ça je pense que c'est un aspect très important pour les développements futurs, le micro envoie des informations, il donne des indications sur son fabricant, son modèle, son numéro de série, la latence dépendant du modèle et évidemment de la fréquence d'échantillonnage utilisée, ce qui permet de penser que très rapidement, et c'est des choses qui sont en discussion avec Hervé d'Innovation qui est là, à partir du moment où le micro peut être identifié et envoie une information sur qui il est, on peut très bien imaginer que, bon, suivant son affectation et son utilisation pour tel instrument, dans un réseau numérique, avec un petit peu de programmation, il saura trouver son chemin tout seul pour arriver à l'emplacement qui lui est dédié sur la console. Ça, c'est pas encore là, mais c'est pas non plus de la science-fiction. Pour lui et des gens comme des fabricants de consoles, c'est juste un petit peu de programmation. Ce qui nous arrange. Il y a un autre aspect qui est intéressant dans le même registre, on va dire. Emmanuel l'a mentionné, le micro est capable de générer lui-même certaines fréquences ou signaux test, et ce qui permet également d'envisager à court terme un auto-line check qui ferait que tous les micros connectés, on verrait une petite tonalité sur une seconde, les uns après les autres, et en cas d'anomalie sur sa feuille de patch ou la configuration prévue, un message d'alerte peut indiquer qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas correctement, et ce qui permet de s'affranchir de soit des musiciens, soit d'avoir quelqu'un qui passe derrière tous les micros pour vérifier le patch en question. Donc ce sont évidemment deux... tout petits exemples de ce qui peut être fait en termes d'échange entre le micro et le reste de la chaîne. Le D01, lui, je reviens sur le micro, avait la particularité d'avoir 15 directivités qui peuvent être modifiées à distance. C'est le seul de la gamme actuellement. Et ensuite, il y a toutes les options de filtres, coupe bas, de gains numériques gérables à distance, de compresseurs limiteurs à l'intérieur du micro, de pics limiteurs en parallèle qui permet de garantir que le signal sera toujours exploitable et qu'on ne rentrera jamais dans une saturation numérique, ce qui est évidemment absolument interdit. Voilà, tout un tas de paramètres pilotables donc à distance et via du réseau. Et dans le cadre du casino, tous ces paramètres, par exemple, sont gérables depuis la salle de contrôle qui est à plusieurs centaines de mètres des tables de jeu. Après le D01, la série des micros KMD est sortie à l'AES à Paris en 2006. Depuis, donc, c'est une série modulaire avec aujourd'hui 9 capsules disponibles. Ce sont des capsules qui existaient déjà dans les séries de micros analogiques, donc les membranes sont les mêmes. Ça ne veut pas dire que les capsules sont compatibles avec d'anciennes séries, parce que là, ce sont des capsules passives, contrairement à la série KM100. Mais les membranes sont les mêmes, et c'est intéressant de constater qu'a priori, c'est ce qui apporte les caractéristiques acoustiques du micro. Évidemment, pas seulement, puisque le préampli derrière, dans les micros analogiques, joue un rôle, aussi en termes d'audio. Et y compris d'un point de vue purement acoustique et audio, on s'aperçoit qu'entre un KM184 numérique et un KM184 analogique, le comportement et les performances ne sont pas les mêmes, que ce soit en termes de tonalité, résistance au Larsen, et également le choix des directivités va être... alors là, ce n'est pas proprement lié au micro lui-même, mais l'association dans un réseau tout numérique derrière va faire qu'on va opter pour des directivités pour lesquelles on n'aurait pas forcément fait le choix en priorité avec des micros analogiques.
Ben, c'est vous qui avez été surpris au départ. Quand j'ai fait mes commandes plutôt en 185, qui est de l'hypercardio, qu'en 184, qui est du cardio, que les trois quarts des gens prennent. Et en fait... ce qu'on a fait, on a refait, j'allais dire, les mesures. Enfin, on n'a pas fait des mesures. On a fait de l'écoute de micro. Donc, quand vous achetez un micro, vous avez les diagrammes qui vont avec. Moi, j'ai dit, je m'en fiche un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se comporte. Donc, on a mis un micro. On a mis des instruments devant. Ces instrumentistes, on les a fait bouger pour voir ce qui se passait quand ils étaient en face, quand ils étaient sur le côté... etc. Et surtout, on a mis des instrumentistes à côté qui jouaient sans micro, mais qui, pour savoir comment le micro de l'instrumentiste d'à côté se comportait. Et c'est là qu'on a découvert plein de choses. On a découvert, en fait, que si on prenait plutôt de l'hypercardio, on allait moins, ce qui est logique quelque part, avoir l'instrument qui était sur le côté. Contrairement à la courbe, on n'avait pas celui qui était là, parce qu'il paraît que de l'hypercardio, ça vient choper ce qui est là. En numérique, on ne l'a pas du tout. Mais ça, c'est à l'écoute. La mesure, j'en sais rien, mais à l'écoute, on ne l'a pas, ça ne nous gêne pas. Et si on a quelqu'un qui joue à côté, on l'entend, mais on l'entend proprement. Ce qui fait que dans le mix, ce n'est pas gênant. Ce qui réarrive des autres instruments qui ne sont pas directement sur le micro, ce n'est pas gênant. Le 184, il est cardio, il ouvre un peu plus. Donc, dans la réalité, si je prends la réalité du live, un 185, je chope sur un tube à peu près comme ça. Enfin, si je pars, si j'admets que c'est ce micro-là, je vais choper quelque chose comme ça. Sur 80-90 cm de long. Ce qui veut dire que dans cette zone-là, j'aurai proprement un instrument. Donc si je prends par exemple une clarinette, moi je me mets en bas, je le décale un peu, et je sais que je vais choper jusqu'au-dessus. Proprement, je suis à peu près équivalent. À l'écoute, ça marche bien. Si je mets un 184, le 184 va être cardioïde, il va choper un peu plus sur le côté. Par contre, ce qui revient des autres instruments à côté, on a un médium bas qui n'est pas très joli, qui n'est pas très intéressant, qui est un peu sali. Alors du coup, on n'a pas de micro de grosse caisse, on le met dans la grosse caisse. Celui-là, par contre, il nous arrange bien. On va le mettre sur des amplis basses, mais on ne va pas le mettre droit. Du coup, on va utiliser ce bas médium un petit peu sale qui va rendre quelque chose d'agréable pour la basse. Donc on va le prendre, on ne va pas le mettre en face. On va le tourner pour trouver le son qui nous intéresse. Et ce qu'on a constaté, c'est aussi que dans une chaîne analogique, on a des amortissements dus aux résistances, à tout ça, et qu'on l'a plus du tout en numérique. Donc là, on a des attaques assez fortes. Donc quand on va prendre, par exemple, des cuivres, on va le mettre un petit peu de travers le micro pour que ça attaque un peu moins la cellule. C'est plus joli parce qu'en fait, on a des comportements complètement différents. Et puis, pour prendre, comme j'allais dire, on est en tout numérique, donc on n'a que deux conversions. Et je pense que ça vient de ça. On est,
on est un petit peu plus loin du Larsen, on peut avoir plus de volume avant de larsener, bah parce qu'en fait, à chaque conversion, on perd 8-10 dB, donc forcément, on monte le volume du micro et forcément, on accroche. Comme là, on n'a pas ce cas-là et qu'on voulait prendre des cordes et de prendre des champs beaucoup plus larges, on leur a demandé une cellule et ils nous ont sorti la 143, qui est une hypocardioïde. Donc, en fait, dans le live, j'allais dire, elle va prendre... en demi-cercle, ou vraiment à l'arrière, on est très atténué, et on va prendre un demi-cercle qui va être à peu près de cette taille-là. Donc, on va pouvoir prendre, par exemple, dans le cadre du classique, deux cordes à la fois, en ayant du niveau, du grave, parce que si on est à 70 cm du micro, on a un très beau grave, sans avoir d'effet de rumble ou de choses comme ça. Donc, nous, on travaille, en fait, surtout avec cette cellule 143 et 185. Puis on a un peu de 184 pour des raisons que je vous ai dit. Dans le classique, les corps, j'ai trouvé que c'était agréable. Après, bon, ben, chacun découvre son truc et fait son... Mais voilà un petit peu ce qu'on a découvert en deux mots sur les micros, quoi.
En gros, tu es en train de nous dire que le KM184, ça devient un micro de grosse caisse.
Ben, si on n'en a pas d'autres, pour l'instant, c'est le cas.
Retour à l'envoyeur. Justement, c'est... Alors, déjà, c'est... Deux constatations, c'est que le KM184, qui est vraiment le micro polyvalent en analogique, enfin dans la gamme Neumann de micro miniature, c'est peut-être pas forcément le cas en numérique. Ensuite, c'est que effectivement, même si c'est pas le micro idéal, on peut le mettre dans une grosse caisse, parce que ce qu'on sature sur un KM184 analogique, c'est pas la capsule, c'est le préampli. Là, il y a plus de préampli.
Mais en fait, il y en a plus. Si, il y en a, mais il y en a deux. Donc, comme il y en a deux, on a
plus... C'est pas la même fonction.
C'est pas la même fonction, mais on a plus de dynamique qu'on peut en gérer, à la limite. Donc, c'est pas très gênant, quoi.
Mais évidemment, il manque, alors par anticipation et pour peut-être aller un petit peu plus vite, il manque des micros, même si la gamme commence à être assez large, avec des micros Canon, KM181D, et les micro-champs maintenant, KMS104. Et 105D. Donc, oui, je commençais à dire qu'il y a d'autres micros qui arrivent, et notamment un micro dédié à la grosse caisse qui sera certainement le premier micro dynamique numérique fait en coopération entre Neumann pour la partie conversion et Sennheiser pour la partie micro dynamique, puisque Neumann ne fait pas de micro dynamique. Alors, il y a également des micros numériques chez Sennheiser, ou en tout cas un module numérique qui s'appelle le MZD8000, qui est compatible avec la série de micros MKH 8000, qui avait au départ trois capsules cardio, super cardio et omni, qui aujourd'hui sont complétées par deux capsules Canon, inspirées du 416 et du 816, Canon et semi-Canon. Est également compatible avec ce module numérique qui a la particularité de convertir deux canaux, le MKH 800 Twin, qui est en fait deux micros en un. Donc ce micro, ainsi que la possibilité de connecter deux capsules de la série MKH 8000 sur ce corps, c'est possible grâce à l'utilisation de câbles en Y ou de câbles spécifiques. Et également, ce module numérique MZD8000 de chez Sennheiser est assez... Alors, la conception est différente par rapport à Neumann, mais du coup, ça le rend un petit peu plus versatile et polyvalent. Et on a la possibilité, avec un certain nombre de... Enfin, avec un câble spécifique, de connecter la plupart des micros existants, hein, y compris des micros donc dynamiques, même si c'est statique aussi. Donc c'est aussi une étape intermédiaire vers l'idée d'en faire une sorte de DI numérique et beaucoup plus...
On a pas mal de gens qui arrivent avec l'accordéon et puis le petit micro dedans intégré et tout ça, donc on peut pas leur dire qu'est-ce qu'on fait. Donc dans ce cas-là, on prend ça, on les met, et comme nous, dans l'idée, c'est d'approcher le convertisseur le plus près du micro, on a encore regagné un bout, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, plus on monte la qualité de la chaîne numérique... plus l'élément le plus faible, il se déplace. Et là, il se déplaçait sur les quelques mètres qui nous restaient. Donc, bah, on a gagné un peu, et je trouve que c'est intelligent. Surtout que si on veut, le convertisseur est stéréo, ce qui fait que si dans l'accordéon, il y en a deux, on lui donne le convertisseur dans la poche, un Y, et ça y est, on a les deux.
Voilà, donc je vous parlais des interfaces et des boîtes en général pour composer un système, et on va là revenir plus spécifiquement sur le live. La plus importante pour nous aujourd'hui, c'est évidemment la DMI8, qui est l'interface 8 canaux que vous voyez en haut, qui est ouverte aujourd'hui sur un premier réseau numérique qui est l'Ethersound, mais évidemment il y a d'autres choses en cours de développement. Et puis les boîtiers de la gamme UCAN, qu'Emmanuel vous a présenté ce matin, qui viennent en complément pour pouvoir composer des systèmes entiers. Et alors la DMI8, évidemment, elle a été vraiment au départ conçue pour avec une optique d'application plus de studio. C'est une unité rackable avec des connecteurs qui ne sont pas vraiment faits pour aller sur la route. Je reviens sur ce que disait Alain un peu plus tôt ce matin en disant que les ingénieurs de Neumann, c'est vrai, c'est pas du tout qu'ils soient pas intéressés par le live. Hein. Il y a quand même des micros dans la gamme qui ont fait leur place sur des scènes. C'est juste qu'avec un peu plus de 80 ans d'existence, c'est vrai qu'ils viennent du monde du studio et du broadcast et que ça se fait pas en 5-6 ans, le fait d'avoir une approche de développement de produits, surtout des boîtes, hein, c'est avant tout un fabricant de micros, qui sont faites pour une utilisation intensive sur la route. C'est là-dessus que, et là je vais me servir de l'exemple d'un groupe de pop-rock qui a tourné au mois d'avril avec un système tout numérique, et je vais donc vous montrer ce qui a permis, en collaboration avec UCAN et Espace Concept, de développer des adaptations de ces produits faites pour une utilisation intensive sur une tournée, par exemple, ou sur un festival. Ça, c'était les quelques dates de ce groupe, donc Archive, qui est un groupe anglais qui a donc tourné dans quelques villes d'Europe au mois d'avril, en partie sur certaines dates avec un orchestre symphonique. Les premières dates étaient au Grand Rex pour les deux premiers concerts début avril. Je n'y étais pas moi-même personnellement, malheureusement. Je suis allé sur quelques autres dates de cette mini-tournée. Alors, on pourrait en parler très, très longuement parce que c'était une histoire plein d'anecdotes très intéressantes sur l'acceptation de ce genre de technologie auprès de quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler au départ et qui, en peu de temps, accepte de partir sur la route avec un système complètement nouveau. Ça a été le cas. On a fait une réunion, en gros, même pas un mois avant la première date, pour expliquer à l'ingénieur du son, qui s'appelle Spike Jones, le principe, ce qu'on allait lui mettre dans les pattes, et lui expliquer qu'il n'y avait rien d'expérimental, et que de toute façon, il bénéficierait au moins sur les deux premières dates de tout le support nécessaire, mais voilà, que ça apporterait quelque chose de nouveau, dans le résultat évidemment, mais également dans son approche, et sa façon de travailler. Voilà une photo de la configuration alors qui vient du rider. Hein, c'est pas, et voici donc le schéma tel qu'il était utilisé à l'origine. Rapidement, Alain, tu peux le décrire. Je crois qu'il doit nous rester quelque chose comme 10 minutes.
Oui, alors le décrire, nous, on est censé faire que le symphonique. Donc lui, il gardait son système traditionnel pour le groupe. Nous on a mis, comme il y avait un groupe rock, on a mis sur les cordes des cellules positionnées dessus avec qui on avait travaillé qu'un luthier. On a mis que des ambiances sur les cordes en micro, mais il nous fallait la base solide. Tout le reste de l'harmonie a été pris en micro numérique. On a envoyé ça dans une Innovason. L'Innovason recevait le son du groupe par la venue, et l'Innovason allait alimenter le système qu'on rencontrait, donc au Grand Rex, c'était au Grand Rex, c'était du DNB, où on est rentré, on avait ce BU. Donc on avait un vrai système numérique. Il a été surpris de la puissance qu'il pouvait avoir, de la qualité du son, et puis pendant les balances, je trouvais que le son de piano, c'était pas top. Je lui disais, tiens, est-ce que tu veux essayer en numérique? Bah oui, mais tu vois, je suis sur cette console-là pour travailler le groupe. Si tu me remets le piano là du groupe, c'est un peu bizarre. Donc au final, il a accepté. On y a mis deux micros numériques jetés dans le piano à la va-vite entre les répètes. Et là, il a levé sans aucune correction et tout. Il s'est retourné, il m'a dit, putain, c'est excellent, je garde. Et en gros, au bout de quoi, 10 dates de concert, tout est passé numérique. Et là, il veut le système complet en numérique. Il a oublié.
En fait, on lui avait annoncé que... au-delà de l'aspect mise en œuvre différent et plus rapide, plus efficace, d'un point de vue purement audio, ce qu'on lui proposait, c'était évidemment qu'on peut obtenir un résultat très, très satisfaisant avec des micros analogiques, avec des systèmes traditionnels. Par contre, la constatation, et ça l'a confirmé, c'est que là, on enlève un voile. Il y a quelque chose qui se passe et que ça redonne une présence, une transparence. Alors évidemment, ça ne triche pas. Hein, si ça ne joue pas bien, le résultat, il n'est pas bon.
Il n'y a plus rien qui cache.
Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on est parti sur une configuration intermédiaire, une sorte de compromis, mais qu'il avait choisi une des dates où il n'y avait que le groupe, donc un concert électrique dans un tout petit club à Karlsruhe, dans le sud de l'Allemagne, où personne ne saurait ce qui se passerait, pour tenter de mettre des micros numériques sur tout le groupe et d'utiliser l'Eclipse. C'est ce qu'il a fait, et il ne veut plus changer. Il ne veut plus changer, y compris sur des festivals, donc ils vont jouer cet été dans différents festivals, sans orchestre, avec orchestre. Ils sont programmés le dimanche soir à Rock en Seine, en fin de soirée, avec l'orchestre. Donc ça sera peut-être une occasion d'écouter ça. Et je reviens sur le conditionnement. Voilà donc la façon dont vous les avez devant vous, hein, mais évidemment les DMI-8 ont besoin d'être un petit peu customisés avec des plaques arrière, avec des connecteurs plus résistants et pour pouvoir être emmenés sur la route et répartis en différents points de la scène pour être directement utilisés comme boîtier de scène.
Oui, parce qu'en fait, si on regarde, le groupe avait 40 ou 42 entrées. Nous, en symphonique, c'est un petit, on en avait à peu près pareil. Il est parti, donc, il avait une fibre optique de 150 mètres. Il avait un spare de 100 mètres en câble réseau. Il est parti, il avait deux fly comme ça et la console Innovation qui est comme ça. C'est important, notamment qu'il était en bus de tournée. La taille est super importante. On sait qu'il peut y avoir des pannes, des machins, des retards. Qu'il y a des fois, ils peuvent arriver juste, qu'il leur est arrivé, et en rien de temps, c'est monté. Donc tout ça, ça rentre en jeu aussi quand on part sur la route, quoi. Parce que quand on a des consoles qui sont énormes, avec des racks, rien que des patchs qui sont énormes, qu'il faut reprendre des sous-patchs, des ceci, des cela, quand je voyais sa config de groupe, elle était 4 fois plus grosse que ce qu'on a amené, pour exactement la même chose, quoi.
Rapidement, un autre petit exemple, et là en termes de création sonore c'est différent, mais le principe est le même. C'est un match de rugby qui a eu lieu récemment au Stade de France et avec la SFP. Donc on a mis en œuvre et testé une configuration similaire. Vous voyez les DMI, toujours dans les mêmes racks répartis autour du terrain, avec un chaînage, hein, avec les câbles hybrides alimentation et réseau dans la même gaine. Et ensuite, bon, évidemment, sur ces interfaces, des micros canons répartis tout autour du terrain et quelques paires de micros stéréo. Et le tout relié au car régie par une fibre optique de 300 mètres. Vous voyez une photo à l'intérieur du car avec la console Studer qui n'a pas encore l'intégration de la commande des micros directement dans la console, ce qui fait que sur la photo en bas à droite, vous voyez sur les écrans le logiciel de pilotage des micros, le logiciel Neumann. Mais c'est ce genre de projet qui, évidemment, pousse, hein, et je pense que...
Par contre, elle pouvait intégrer une carte Ethersound, donc on a mis une carte Ethersound dedans, et puis voilà, ils ont retrouvé tout de suite leur micro, et ça s'est mis en place apparemment en rien de temps, et c'est assez content.
Et là aussi, le résultat, c'est que la mise en œuvre est facile. La commande, on a la commande à distance de tous les paramètres des micros et on a le son directement des capsules intactes amenées à la console de mixage. Alors pour le rugby, on se parle de micro-canon qui capte des ambiances. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tout va basculer. Mais en tout cas, ça a prouvé que la technologie est au point, utilisable sur le terrain, et que pour des projets peut-être un petit peu plus sophistiqués, c'est maintenant vraiment d'actualité. Et ça sera ma conclusion de vous citer un certain nombre de projets qui sont en cours pour les 2 mois qui viennent. Le premier sur la liste, c'est un festival au Maroc qui s'appelle Mawazine, où il ne s'agit pas de faire une des scènes principales, puisque ça, c'est un projet qui a commencé à être discuté pendant le Pro Light and Sound à Francfort. Mais il y a une tente sous laquelle les musiciens des différentes scènes, après les concerts, viennent taper le bœuf. Et à une scène quand même avec tout un système de sonorisation qui sera en numérique de A à Z. Et ce festival sera suivi début juin par deux opéras en plein air à Jérusalem, devant 12 000 personnes à chaque fois, avec une utilisation de 80 micros numériques. Donc là, ça commence à devenir vraiment des projets avec une forte visibilité. Et puis, au mois de juillet, différents festivals. Le festival de jazz de Toronto, un festival à Berlin sur une place centrale en plein air qui s'appelle Gendarmenmarkt, où il y aura une cinquantaine de micros numériques mis en œuvre. Voilà, les projets se multiplient et à chaque fois, évidemment, Archive qui va repartir sur la route avec cette fois-ci une configuration numérique adaptée au festival.
Merci à Guillaume et Alain et Emmanuel. Est-ce qu'il y a encore un ou deux questions dans le public, ou est-ce que vous avez tout compris? Vous êtes saturés, vous êtes fatigués? Bien, alors je vous donne rendez-vous à 14h30. Merci bien pour cette première conférence, pour les troisième rencontres.
Autre radio, autre culture.